Flagrant Soul, cap sur l'âme du groove.
You got it.
Bonsoir à tous, vous êtes sur Campus Paris, il est 21h, vous écoutez Flagrant Soul, bienvenue dans ce 7e numéro de la saison, je crois. L'équipe au grand complet, tout le monde derrière le micro ou derrière la vitre.
En
ça
forme.
Va les gars, en forme.
Super, écoute, au taquet.
T'avais pas la voix d'un gars super au taquet, mais du coup je te passe tout de suite la parole, c'est quoi ton mood du moment?
Eh ben écoutez, on va partir outre manche tout de suite.
Maybe please proceed. Always know that you know me, know that you want me. Baby, then show me. You got what the we went from. Sex in the morning, the crashing on most days, the crashing and burning. But you wanted more, baby. I like you want me. Prove it and show me. If I'm being honest. You got what the pretty girls want, what the city girls want, what the pretty girls want, what you do, what so many girls want, what the many girls want, not just any girl want.
C'est la nouvelle pépite de la soul anglaise, Odile, qui était de passage dimanche dernier à l'Élysée Montmartre. Son dernier album, The Fall That Save Us, est sorti l'année dernière, en fin d'année. Album sur lequel est produit ce Pretty Girls. Et donc avec Odile, vous embarquez tout de suite pour une soul à la fois ultra moderne et très organique. Odile qui a sorti pas moins en 2025, hein, pas moins de 3 albums. Alors c'est des mini-albums, mais quand même.
D'accord. Elle vient de Ré ou pas du tout? Excusez-moi, j'étais obligé de la faire.
Belle référence.
Moi, j'ai alors mon mood, hormis dans la préparation de l'émission, qui fait que j'ai écouté quand même pas mal de morceaux potentiels pour être des berceuses, je vous spoil un peu pour la suite. J'ai quand même été relativement agacé ces derniers temps de voir mon outil, un de mes outils de prospection musicale, à savoir Instagram, pollué, mon algorithme pollué par les mêmes autour de les places de concert pour le concert de Céline Dion. Voilà, donc je n'écoute pas Céline Dion, je respecte, c'est très bien, mais je ne tiens pas à voir ça sur mon algorithme. S'il vous plaît, les gens, arrêtez de consulter ça. Ça fait ressortir ça sur l'algorithme des autres. C'est très agaçant.
Voilà. Mais on est un peu déçu parce qu'on pensait t'offrir justement pour ton anniversaire.
Alors, n'hésite pas, je les revendrai avec plaisir.
ça rapporte 1 milliard à la France quand même. Hein. Donc, ça rapporte de l'argent.
Ouais, c'est pas mal.
Des concerts de Céline Dion.
Ah ouais.
Bon, moi, mon mood, c'est, je suis hyper content parce que je vais vous parler d'un groupe qui s'appelle Hyper Content. C'est un groupe qui est en pleine émergence et j'ai eu la chance
avec Odile Deray, quand même,
d'écouter, hein. Ouais, tout à fait.
T'as même le t-shirt, hein.
J'ai le t-shirt, j'ai acheté le t-shirt au concert et je les ai vus, ils sont passés à la Petite Halle, c'était leur deuxième concert en France, vendredi dernier, le 27. Ils sont passés en premier à l'Alimentation Générale. Donc au passage, merci aux petites salles et aux programmateurs qui font un super travail pour nous faire découvrir tous ces nouveaux groupes. C'est un groupe franco-belge qui est basé à Bruxelles, qui est emmené par 2 batteurs percussionnistes hors pair, Raphaël et Ellie. Formation jazz, plutôt conservatoire, mais des influences électro, funk et jazz. Et ce qui est génial, c'est que ça vous donne envie de danser. Il y a une bonne énergie sur scène, il y a des bons messages qui sont véhiculés, des bonnes vibes. C'est une bonne humeur communicative, ça fait du bien parce que c'était encore un peu l'hiver. Là, on en sort et on est content. Donc c'est leur premier EP qui s'appelle L'été toute l'année. Vous pouvez l'écouter sur toutes les plateformes. Il n'y a pas encore de support physique, mais il y aura peut-être un jour dans les bacs des disquaires un disque.
Ça donne envie d'écouter, hein.
La vie selon Flagrant Soul, ce soir, quelles bandes sont idéales pour endormir un nouveau-né? Alors la vie est parfois joyeuse, légère et apaisante, et ces moments méritent leur bande-son. On a besoin de moments un peu cool à la fin de la journée pour endormir nos petits. C'est ce qui m'a poussé à faire une petite playlist, quelques mois même avant l'arrivée de mon fils, que j'avais appelé à l'époque Play It Cool for Petit Truc, parce qu'il n'avait pas encore de prénom, donc il fallait bien lui donner une appellation.
Petit Truc, c'est pas mal.
Petit Truc, c'était le Petit Truc. Et donc, on passait régulièrement cette playlist quand il était encore dans le ventre de sa maman. Et cette mixtape, elle m'a servi de nombreuses fois à le faire monter dans le train du sommeil avec ce petit rituel d'endormissement hautement efficace, une enveloppe sonore pleine de douceur et de tendresse pour assurer une sécurité affective.
Oh, la pression.
Qu'est-ce que tu nous as prévu ce soir, Simon ?
Eh bien, écoutez, je vais tenter de vous endormir avec. On reste au côté Angleterre, avec Sampha et Inclination Compass.
Sour and strained in the portrait of a lover's game. The obvious becomes a blur, and when we shout so loud, abusive words, and we're in need of some tenderness. Sun rays through a flying cloud. Did we have to be so featherless? When skeletons came pouring out, how about we fly towards the source again? Let's switch from cold to warm again. Let's fly towards the source again. Oh, let's switch from cold to warm again. No, I don't mean to minimize your words. And there's a requisite to trust our heart. You've been spending so much time with work. Had me questioning my worth, and we're in need of some tenderness. Like sun rays through a flying cloud. Did we have to be so featherless? When the skeletons came pouring out, how about we fly towards the source again? Let's switch from cold to warm again. Let's fly towards the source again. Oh, let's switch from cold to warm again. Oh, oh, oh.
Fait perdre Vincent dans les studios.
Morceau pas que pour endormir un nouveau-né, pour endormir quelqu'un qui est né il y a assez longtemps.
Voilà. Donc endormir un nouveau-né est toujours un moment en lévitation entre tendresse, de voir ce petit bout lâcher prise pour partir vers un monde apaisé, et appréhension que tous ces efforts attentionnés soient ruinés par un bruit parasite venu contrarier ce long et instable embarquement vers le sommeil. La musique finit par vous apaiser, vous êtes comme vous espérez qu'elle apaise ce nouveau-né, que vous tentez d'endormir. La fatigue vous gagne aussi et vous rappelle la longue série de nuits entrecoupées de sommeils non réparateurs dont les traces se font indéniablement ressentir. Vous écoutez Sampha et son Inclination Compass qui impose sa douceur mélodie et son timbre de voix si réconfortant. Vous vous sentez partir et vous sentez que vous n'êtes pas le seul à partir. C'est alors que vous êtes pris d'une soudaine inquiétude, ne vous rappelant plus très bien comment le compositeur britannique va faire évoluer son écriture et sa composition. Et puis, cela ne se passe pas. Et votre tension retombe d'un coup, d'un seul. Vous sentez que cette fois-ci, c'est la bonne. Vous regardez votre nouveau-né enfin apaisé. Vous profitez de cet instant et redouter le moment où il faudra le quitter dans la discrétion la plus possible.
Très joli.
Très aérien comme morceau.
Je vais être sur un morceau assez, assez épuré, moi aussi. On va écouter Jeff Buckley tout de suite. Jeff Buckley avec Je n'en connais pas la fin. Un morceau extrait de son premier disque, hein, Live at Chiné, qui était un petit café du East Village dans lequel il a commencé à se produire au début des années 90, tout seul avec sa guitare dans un coin du café comme ça. un morceau qui en fait est une reprise d'Edith Piaf, d'où le refrain en français. La version d'Edith Piaf, comme je vous le disais tout à l'heure, Bertrand Simon, c'est quand même très orgue de barbarie, très musique de foire, on va dire, avec bien sûr la puissance d'Edith Piaf, mais là on a le traitement Jeff Buckley.
Sensible.
Arrangement minimaliste, guitare-voix très épurée, pas de rythmique agressive qui pourrait empêcher le nouveau-né de s'endormir vraiment. Et puis, une valse qui est un rythme parfait pour bercer un bébé. Et puis cette voix angélique, ce vibrato angélique de Jeff Buckley, tout ça pour moi donne un morceau suspendu hors du temps, qui place le parent et son nouveau-né dans une petite bulle de douceur, et qui est propice, j'espère, à l'endormissement.
Excellent d'ailleurs documentaire de Jeff Buckley qui est sorti là.
Tu l'as vu sur quel...
It's Never Over, il est sorti au cinéma en février, et il me semble qu'il est sur HBO, un truc comme ça.
D'accord. Cool.
Alors, moi j'ai choisi, en fait, le titre que j'ai choisi ce soir, c'est à la base une samba, mais on peut aussi l'écouter en bossa nova, comme on va le découvrir, c'est George Benjor avec Chove Chuva.
Pra Deus Nosso Senhor, pra chuva parar de molhar o meu divino amor, que é muito lindo, é mais que o infinito, é puro e belo, inocente como a flor. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Por favor, chuva ruim, não molhe mais meu amor assim. Chove chuva, chove sem parar. Chove chuva, chove sem parar. Pois eu vou fazer uma prece pra Deus Nosso Senhor, pra chuva parar de molhar o meu divino amor, que é muito lindo, é mais que o infinito, é puro e belo, inocente como a flor. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Chove chuva, chove sem parar.
Il est 21h20, vous êtes sur Radio Campus, vous dormez, tout va bien.
En plus avec cette voix toute douce.
C'est ça, un petit côté afro qui ressort incontestablement. Et puis son aspect lancinant, voilà, c'est tout ça qui m'a séduit. C'est une petite ritournelle qui pénètre assez bien dans la tête, vous trouvez pas? Et puis, il parle de la pluie et profite de l'occasion pour chanter son amour à sa bien-aimée. C'est assez simple, c'est une musique qui a l'image de ses paroles, légère et optimiste, avec ce quelque chose d'immédiat, d'évident, qui fait, je trouve, ces morceaux inoubliables. Et il intègre aussi, ce qui est intéressant, des références aux cultures afro-brésiliennes. Et à l'époque, c'était pas évident, parce que c'était assez ostracisé. Vous avez entendu à la fin, quand il invoque ses divinités orishas, pour faire cesser la pluie, sur Chovechuva, c'est Sakundim Sakundem Inboro Konga Dombrim Dombrem Agwe Oba. Voilà, c'était Georges Ben.
L'heure est venue de voter. Ça va pas être facile.
Faut reprendre du muscle, Vincent.
Je reste dans le ton, je reste dans le mood. Je fais une transition très soft. Et donc du coup, il va falloir voter pour la meilleure berceuse. Vous votez pour quel morceau, vous, Bertrand?
Alors moi, c'est Buckley, parce que j'adore cet artiste. Et je suis très content que tu m'aies donné l'occasion de le réécouter.
Moi, ça sera côté Georges Eben, parce que j'ai toujours eu un faible pour la bossa nova.
Moi aussi, ce sera Georges Eben.
Ouais, je vous ai eu.
Et, de l'autre côté de la vitre, Gaëtan, votre Jeff Buckley. Ouais, de égalité. Partout, balle au centre.
Bon, bah. Et ben, rendez-vous dans un mois.
Match retour.
C'est ça.
C'est l'heure de la question improbable, on va essayer de redynamiser tout ça, hein. Mais rien n'est moins sûr, puisque la question improbable ce soir, c'est: peut-on réhabiliter la flûte à bec? Ouais. Et oui, la flûte à bec, c'est un des instruments les plus anciens, hein, qui existent. Ses origines remonteraient, d'après certains, à la préhistoire. Bah, la flûte à bec gagne en popularité au Moyen-Âge et elle atteint son apogée à la Renaissance, où à l'époque elle se joue surtout dans des ensembles, mais elle atteint surtout son apogée avec le répertoire baroque par la suite, quand Purcell, Bach, Telemann et Vivaldi, entre autres, l'utilisent régulièrement dans leurs œuvres. Alors la flûte à bec, par la suite, elle se fait plus discrète dans les répertoires classiques et puis romantiques, et on doit dire qu'elle n'est pas vraiment revenue en grâce depuis. Je me suis creusé la tête quand même, hein, pour trouver des utilisations emblématiques de flûte à bec dans les musiques populaires de ces 60 dernières années, ça laisse quand même de quoi explorer. Et j'avoue que, hormis quelques babos et une utilisation à dose très homéopathique par des monstres sacrés comme les Beatles sur un morceau comme The Fool on the Hill, ou encore les Stones sur Ruby Tuesday, au niveau de la météo de la flûte à bec, c'est très 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 calme quand même. Voilà.
Ouais, t'as dû galérer, hein.
Ouais, bon, écoute. En tout cas, il doit y avoir des raisons à ce calme. Et donc, comment expliquer cette quasi-disparition de la flûte à bec au sein du répertoire des musiques populaires? Eh bien, l'explication la plus simple, ce serait qu'elle a été éclipsée par sa sœur Cool, la flûte traversière, qui est notamment omniprésente qui est présente dans pas mal de genres musicaux, mais qui est très présente notamment dans le jazz. Hein, on pense à Youssef Latif, parfois Eric Dolphy, Hubert Laws, Herbie Mann, et j'en passe. Après, peut-être que c'est aussi le côté généraliste de la flûte à bec qui fait qu'elle a été délaissée au profit de cousines comme la flûte de Pan, le doudouk, voire l'ocarina, qui sont plus ancrées dans des traditions culturelles spécifiques.
Le doudouk.
C'est doudouk.
Pour charmer les serpents.
C'est quoi le doudouk? Le
doudouk, c'est une espèce de flûte, mais avec un instrument à hanches, qui est souvent utilisé dans la musique arménienne. Okay. Vous voyez la musique de Gladiator?
Ouais.
L'espèce de flûte qui vous arrache les tripes, là? C'est le doudouk. Voilà. Donc, moi, malgré tout, j'ai une autre théorie à vous soumettre, et cette théorie, elle repose sur un paradoxe. La flûte à bec, elle a beau se faire rare dans la musique populaire ces dernières années, ces dernières décennies même, c'est pourtant l'un des instruments les plus communément utilisés par le grand public sur cette même période. En effet, dans le courant du XXe siècle, les systèmes éducatifs de nombreux pays, parmi lesquels la France, ont choisi la flûte à bec comme instrument pour faire étudier la musique aux élèves. Pourquoi ce choix? Bien, la flûte à bec peut être aisément être produite en masse grâce à la bakélite à l'époque. Elle est bon marché et puis elle est facile à prendre en main pour un néophyte. C'est donc l'instrument idéal pour démocratiser l'enseignement et la pratique de la musique.
Ça tient pas de place.
Voilà, aussi, c'est vrai, j'oubliais l'aspect prise de place. Alors l'intention derrière le choix de la flûte à bec, elle est vraiment louable, l'intention derrière la démocratisation de la musique, elle est louable, mais dans la réalité, la flûte à bec dans le système éducatif, ça donne généralement 34 collégiens boutonneux entassés dans une classe surchauffée qui massacrent l'hymne à la joie sous les oreilles impuissantes d'un prof de musique au bout du rouleau. Le son criard, les fausses notes, l'absence totale de rythme et de coordination. Je veux dire que pour bon nombre d'entre nous, la flûte à bec a plus été un instrument de torture qu'un instrument de musique. Et de là à expliquer l'absence de la flûte à bec du répertoire des musiques actuelles par un traumatisme lié à l'enfance partagé par nous tous, il n'y a qu'un pas que je me permets de franchir allègrement. D'où ma question improbable du jour, peut-on réhabiliter la flûte à bec ? Alors pour vous rappeler que la flûte à bec est moins traumatisante que notre expérience collective d'écoliers tendrait à nous faire croire, je vous ai préparé un montage de 5 morceaux qui mettent en avant la beauté et la polyvalence de cet instrument. On commencera par l'artiste folk anglaise Vashti Bunyan et son morceau Diamond Day. On écoutera ensuite le groupe psychédélique Jefferson Airplane avec le Too Do Coming Back To Me, que j'aurais même pu passer dans la première rubrique. En troisième, vous entendrez Emmett Rhodes et ses harmonies à la Paul McCartney sur Pardon Me. En quatrième, on s'aventurera sur un répertoire disco-funk avec le morceau Funktown de Nate Calhoun. Et on terminera avec Holos, un ovni électro signé Vladimir Cauchemar.
Just another diamond day, just a blade of grass, just another bale of hay, and the horses pass. La 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 la. Just another field to plow, just a grain of wheat, just a sack of seed to sow, and the children eat. La 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 la. Just another life to live, just a word to say, just another love to give, and a diamond day. La 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 la.
Summer had inhaled and held its breath too long. The winter looked the same as if it never had gone. And through an open window where no curtain hung, I saw you. I saw you coming back to me. One begins to read between the pages of a look, the shape of sleepy music, and suddenly you're hooked. Through the rain upon the trees that kisses on the run, I saw you. I saw you coming back to me. If you came to stay and live my way, scatter my love like leaves in the wind. You always say you won't go away, but I know what it always has been. It always has been.
Pardon me, is your love taken? Hope I haven't been mistaken, thinking you might love me. You might love me. Now here's my invitation. I have made the reservation for an evening for two, an evening with you. But if you say this can't be, then all I can say is, won't you pardon me? I don't think that I can take it if you say that you can't make it this evening at eight. Please don't delay. I know that you're admired, but don't say that you are tired and you'd like to decline to some other time. I think that you should know the way that I feel. Yes, I love you. How nice it would be to spend an evening alone with you.
The whole night through in New York or Dallas.
ça fait quand même beaucoup de flûte à bec d'un coup. Alors, est-ce que vous êtes réconcilié avec cet instrument? Est-ce que vous croyez en son potentiel?
Alors déjà, on est réveillé.
On est un peu plus réveillé que tout à l'heure.
Rien que ce dernier morceau de Vladimir Cauchemar, qui est totalement improbable, pour moi, j'accroche.
Pareil, tu nous donnes envie d'aller danser là, en fait. Hein.
Danser sur de la flûte à bec, pourquoi pas?
Et ouais, c'est ça.
On a vu pire.
Non, je trouve que t'as trouvé des morceaux très éclectiques et franchement bravo, parce que c'était pas gagné. Sur le papier, je me disais...
C'est sûr, donc un galérer. Appel à vous toutes et tous, si vous voulez utiliser des instruments pour composer, tentez la flûte à bec, vous aurez un créneau complètement ouvert.
C'est pas cher.
You love to hear the story again and again.
Here's a little story that must be told.
You love to hear the story again and again.
Alors ce soir, dans Flagrant Soul, histoire flagrante, on parle de plagiat. Cette frontière entre inspiration inconsciente, hommage sincère ou pillage délibéré a toujours été tenue. D'autant que la musique n'offre pas non plus des milliards d'harmonies, tant le nombre de notes se compte sur les doigts d'une main. De deux mains plutôt, excusez-moi. D'ailleurs, à une certaine époque où la musique était classique, reprendre le passage d'une œuvre était monnaie courante ou tout simplement vu comme un hommage ou comme une inspiration assumée. Igor Stravinsky disait d'ailleurs « Les bons compositeurs empruntent, les compositeurs géniaux pillent. » Excusez-moi. Tout cela était bien avant que la loi ne protège la création musicale et que les embrouilles ne commencent. Et en France, c'est en 1851 que la SACEM, Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, voit le jour. Bon, alors au risque de décevoir nos éditeurs, avis d'histoire à la Stephen Bern, nous ne déterrons pas ce soir de cadavres musicaux datant du 18e, 17e, voire 16e siècle, et resterons dans un contexte plutôt contemporain. Et je crois qu'on commence avec toi, Bertrand.
Moi, j'ai choisi en fait une histoire flagrante, un plagiat qui a marqué le monde de la musique et qui a peut-être changé la façon de composer, avec le morceau de George Harrison qui s'appelle My Sweet Lord.
Du-lang, du-lang, du-lang. Du-lang, du-lang. He's so fine. Du-lang, du-lang, du-lang. Wish he were mine. Over there, one with the wavy hair. I don't know how I'm gonna do it, but I'm gonna make it mine. Be the envy of other girls, it's just a matter of time. He's a soft-spoken guy, also seems kinda shy.
1969, les Beatles entament leur séparation et Harrison enregistre son premier album solo, All Things Must Pass, qui rassemble toutes les chansons qu'on lui a refusées quand il était Beatles. Et là, il veut prouver qu'il est aussi un grand auteur-compositeur. Et donc, il écrit My Sweet Lord en hommage au dieu hindou Krishna, en utilisant dans la chanson pour combattre le sectarisme. Donc c'est vraiment plein de bonnes ondes. Malheureusement pour Harrison, succès commercial du morceau, disque d'or au bout d'un mois, forcément ça aiguise les appétits. Et donc ça attire aussi l'attention sur la similitude avec un autre morceau que vous avez entendu en intro, qui s'appelle Is So Fine des Chiffons, qui est sorti 7 ans plus tôt. Et donc le problème, c'est qu'on retrouve le même rythme, la même progression d'accords, la même mélodie vocale.
La même tonalité,
donc forcément ça se passe pas bien. Il y a un procès qui s'ouvre en 71, commandité par la maison de disques des Chiffons qui s'appelle Brighton Music. Et puis Harrison, il n'en croit pas ses yeux, il est choqué, il devient parano, ça le bloquera même par la suite pour composer. Enfin, c'est vraiment un traumatisme pour lui. Et c'est une affaire qui a duré une trentaine d'années, quasiment jusqu'à sa mort, il a porté ce truc. Il a réussi à s'en sortir quand même, ça lui a quand même coûté 600 000 dollars.
Parce qu'il a fait pour un Beatle.
Il a fallu qu'il rachète la maison de disques. Et du coup, les deux morceaux lui appartiennent.
Bah, voilà, c'est pratique.
La boucle est bouclée.
Pas de problème, que des solutions.
Mais en tout cas, il a été sincère. C'est assez poignant de suivre cette histoire, cette affaire. Et même le juge lui a dit qu'il aimait les deux morceaux. Et à ce moment-là, Harrison lui dit « Mais attendez, vous venez de me condamner parce qu'il n'y avait qu'un seul morceau. » Et le juge se reprend, lui dit « Excusez-moi, non, j'aime le morceau avec les deux paroles différentes. » Donc c'est pas évident, même le juge s'était un peu emmêlé les pinceaux sur la fin. Et puis le morceau a quand même été repris par les Chiffons qui adoraient My Sweet Lord de Harrison. Donc la musique, elle doit s'affranchir aussi de toutes ces tracasseries juridiques.
Alors du coup, plagiat ou pas plagiat selon nous ?
Plagiat quand même,
mais je trouve que le morceau de Harrison sublime complètement la mélodie et a amené une dimension complètement universelle que n'avait pas forcément le morceau des Chiffons, qui était quand même plus cadré, quoi, on va dire.
Ils ont dit que c'était un plagiat subconscient.
Inconscient ou subconscient ? Alors,
subconscient.
C'est vrai qu'on a rarement vu des gens admettre leur plagiat, mais peut-être qu'on va en parler avec mon exemple. On va écouter un montage avec trois morceaux. Je vais vous demander de bien écouter la mélodie de violon sur le premier et la mélodie des chœurs sur le deuxième. On écoute ça tout de suite. Lord and Lord, Lord and Lord. You know, on my side of the town, when a person wanted something, they had to put it in the will call. You know, y'all know what I'm talking about. And that same thing applies to anyone that's looking for love. And that's why I'm telling you. I say, if you want. Taj Mahal, Taj Ce montage avec d'abord Put Something Down On It de Bobby Womack, puis Taj Mahal de Georgie Ben, deux morceaux qui ont été plagiés par le troisième, Do You Think I'm Sexy de Rod Stewart. Donc ce soir, je vous propose quand même deux plagiats pour le prix d'un. Et s'il y avait une morale à l'histoire que je vais dérouler, ce serait la suivante: mieux vaut éviter de trop faire la fête avant de composer un nouvel album. Donc avant de s'atteler à la composition de son 9e album studio Blondes Have More Fun en 78, Rod Stewart, il se dit qu'il partirait bien s'aérer un peu l'esprit et chercher les good vibes à Rio pour le carnaval, comme c'est bien la mode à l'époque. Le rocker anglais à la voix rocailleuse, il part pas seul, hein. Il embarque avec lui ses petits camarades Freddie Mercury et Elton John, qui sont quand même pas les derniers pour faire la fête. Et donc s'ensuit une virée épique pour les trois compères dans la cité merveilleuse, avec comme fil rouge musical un morceau que le trio entend partout dans les rues de Rio, c'est le fameux Taj Mahal de Georgie Ben, le roi de la samba rock. Traversant probablement les vapeurs d'alcool et autres substances, la mélodie de Georgie Ben vient s'ancrer solidement dans l'inconscient du rocker peroxydé, et de retour en studio après son séjour au Brésil, il compose Do You Think I'm Sexy, avec ce refrain accrocheur dont la mélodie lui rappelle vaguement quelque chose. Le succès du single est immédiat, hein. Le titre se classe à la première place des charts aux USA, au Canada, en Australie, en Espagne, au Portugal, alors en France il a fait que deuxième, mais bon. Et c'est là, étonnamment, hein, que Georgie Ben et ses avocats se rappellent à son bon souvenir et lui signalent l'attrait légère ressemblance entre les mélodies des refrains des deux morceaux. Rattrapé par la patrouille, Rod Stewart reconnaît un emprunt entre guillemets involontaire. Les deux parties trouvent finalement un arrangement amiable très classe, hein, puisqu'elles décident de faire don de l'intégralité des royalties générées par le morceau à l'UNICEF.
C'est bon.
Mais on avait parlé de deux plagiats au départ. Hein.
Ouais, bon. Il est où, Bobby Womack ?
Quid de la réutilisation exactement de la mélodie des violons du morceau de Bobby Womack ? Eh bien, apparemment, pour Rod Stewart, il y a deux poids, deux mesures. Autant il a immédiatement, avec un court délai, admis l'emprunt involontaire à Georgie Ben une fois confronté aux faits, autant le rocker filou affirmera dans ses mémoires qu'il a consciemment repris la mélodie de violon de Bobby Womack et qu'il en avait tout à fait le droit, selon lui, puisque pour lui, on peut s'inspirer et réadapter un arrangement de violon d'un autre morceau sans avoir à en demander l'autorisation. C'est pas vraiment la mélodie, c'est juste un arrangement, donc je peux piocher là-dedans. Donc face à cet emprunt volontaire de Bobby Womack, c'est vrai que la thèse d'un emprunt involontaire de Georgie Ben, elle prend un petit peu de plomb dans l'aile. Je ne vous ai pas parlé d'un potentiel troisième plagiat, mais ça serait plus une très forte inspiration. Est-ce que ce morceau ne vous fait pas penser un peu à un autre morceau d'un groupe de rock anglais un peu de l'époque, genre disco rock?
Non.
Par exemple, Miss You des Stones.
Stones, ouais.
Et ben voilà. Et en gros, le guitariste et le clavier de Rod Stewart, ils ont fait. Non, mais en fait, c'est un peu Miss You, mais version pompée, quoi. Voilà. Mais ça, c'était quand même moins flagrant que les deux autres qui sont genre qui se voient comme le nez au milieu de la figure. Plagiat ou pas plagiat pour vous ?
Ouais, quand même. Ouais. Plagiat, mais en mode gueule de bois, quoi.
Ah, mais en mode complètement détox.
Mais l'histoire de l'emprunt des violons, je trouve ça hyper intéressant parce que finalement, on s'inspire de tout ce qu'on écoute et forcément, la musique évolue et c'est ça aussi qui fait de la richesse aussi aujourd'hui. Hein,
Mais quand il y a de l'argent en jeu, tu vois, par exemple The Verve, Bittersweet Symphony, ben, les Stones, ils ont pris aussi leur part, quoi.
Bien sûr.
Il n'y a pas de cadeau, quoi, grosso modo.
Non, il n'y a pas de cadeau, et là, on va encore en avoir un exemple. On écoute tout de suite Janet Jackson avec ce Got Till It's Gone.
You don't know what you've got. Things easy. I'll be loose, I'll be carefree. I'm living for tomorrow, not today. Gotta make my plan so in case I'll be prepared when I see you smiling. Cause I feel so high when I'm reaching out for your sky. I've boundless energies. I feel I could run a million miles. I'm riding on the wheel of taking me to places far and free. I feel so high when I approach your sky. When I touch your sky, I want my joy to be discreet. Can't seem to hide the feeling that you knocked me from my seat.
Nous étions donc en 1996 avec Janet Jackson, dernière de la célèbre famille Jackson et déjà véritable star avec 5 albums à son actif, tous couronnés de succès, trônant au haut des charts. Pourtant, la Benjamin du clan souffre de dépression chronique, dépression renforcée par son éloignement du reste de sa famille. C'est dans ce climat un peu joyeux, on va dire plutôt, que Janet cogite sur son 6e album, l'humeur instable et lunatique, annulant régulièrement ses rendez-vous autour de cet album à venir, et c'est ainsi que naît Got Till It's Gone, miroir de sa mélancolie, mais également formidable antidépresseur où l'artiste vient déverser sa morosité. Alors pour ce titre, Janet souhaite une association assez improbable, celle de la chanteuse folk canadienne Joni Mitchell et du rappeur américain Q-Tip, au motif que ces deux artistes sont de véritables poètes. Si Q-Tip vient en effet enregistrer dans les studios de New York The Hit Factory, la contribution de Joni Mitchell se limitera à un sample, et pas des moindres, celui de sa chanson Big Yellow Taxi, sortie en 1970, et qui est un peu l'empreinte même de ce morceau de Janet Jackson, Got Till It's Gone. Un emprunt qui sera correctement crédité sur l'album de Velvet Rope sorti en 1997, et l'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais non. Donc, en fait, l'album est un carton vendu à plus de 10 millions d'exemplaires. Et un an plus tard, l'artiste britannique Daisy Ray attaque Janet Jackson en justice pour plagiat. Donc à l'époque, Daisy Ray n'est pas une inconnue, plutôt jouant dans un registre assez pop, hein, comparé à Janet, et avec un tube sorti en 94 que tout le monde connaît.
You gotta be.
Ah, je chante pas très bien, mais...
Ah bon, on l'a, c'est bon.
Vous l'avez. Donc elle accuse Got Till It's Gone de reprendre la trame mélodique de son morceau Feel So High, sorti en 1992. Résultat des courses, elle gagne son procès, à savoir 25% des royalties sur les recettes du morceau, ce qui fait un joli pactole de 2,6 millions d'euros. Voilà. Donc, à noter que Désiré a régulièrement déclaré n'avoir jamais fait cela pour l'argent, mais tout simplement pour le respect de son œuvre artistique. Bon, on ne saura jamais réellement quelle est la part du vrai. Quoique... Un autre événement nous en dit un peu plus quand même sur la personnalité de cet artiste. Une dizaine d'années plus tard, elle traînera également en justice Beyoncé pour une reprise de sa chanson Kissing You dans des conditions qui n'étaient pas celles imposées par l'artiste britannique. Elle avait entre autres demandé que le nom du titre soit conservé et qu'il n'y ait pas de clip. Bon, autant vous dire que Beyoncé en a fait qu'à sa tête, hein. Donc, alors, un petit conseil. Si vous comptez composer, si vous ambitionnez de devenir une star internationale et que votre enfance a été bercée par Désiré, que vos parents écoutaient en boucle dans le lecteur CD du salon, alors méfiez-vous.
Oui, plagiat.
Check.
Clair plagiat.
Ouais, plagiat aussi. Mais elle aurait pu le donner quand même à l'UNICEF.
C'est clair.
Et voilà, c'est déjà la fin. On se retrouve donc samedi 2 mai à 21h sur Radio Campus Paris pour notre émission 708.
Tout à fait, 8e de la saison, encore 3 émissions avant la fin. On vous souhaite une bonne soirée et une bonne suite d'écoute des programmes de Campus Paris.
À bientôt, bon week-end Pascal.
Ciao.